I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 549 du podcast Jeune Actuel Amaté. Très heureux de vous retrouver pour parler de la 13e semaine de la saison NFL 2022. Victor Roulier est à mes côtés. Bonjour Victor.
Et bonjour Alain, bonjour à tous.
Bon, plein de choses au programme. On rentre dans la dernière ligne droite. Attends, nous on enregistre en novembre, mais les gens vont le télécharger en décembre, puisqu'on enregistre la veille, hein, vous le savez. On est en décembre, ça y est, c'est quasiment la dernière ligne droite, parce qu'avec la saison régulière à 18 semaines, maintenant on finit mi-janvier. On est quasiment dans la dernière ligne droite. Mais on va le voir, on peut commencer à se qualifier en play-off et on peut commencer aussi à jouer sa place quand on est un coach, puisque ce sera notre thème du jour. On va parler un petit peu des coachs en danger ou pas. Des belles affiches, des très belles affiches. Cette semaine, Victor, tu m'as dit que tu es méga chaud sur l'ordre des matchs.
Ah, je pense que si on prend le top 7, on est sur la plus belle semaine qu'on ait eue depuis le début d'année. Vraiment. Il y a un nombre de matchs où j'ai regardé, je me suis dit, c'est une affiche. Ça aussi, c'est une affiche. Et tout le temps, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait du monde.
Ouais, j'avoue que j'ai pas. Tu vois, je fais match par match quand je prépare, j'ai pas regardé au global, mais en effet, maintenant que tu le dis, il y a peut-être pas mal de bonnes choses. Du côté donc des affiches, on fera les pronostics qui vont avec ça, et puis les cotes. C'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On va donc parler des coachs et il ne reste plus que 6 semaines de saison régulière en NFL. Matt Rhule et Frank Reich ont déjà été licenciés. Ils pourraient bien être accompagnés par quelques autres coachs à la fin de l'année. Qui est en danger, qui est à surveiller? Victor, on a réparti en 3 catégories pour faire clair. La première, c'est alerte rouge. La deuxième, c'est en danger. Et la troisième, c'est à surveiller. Pour l'alerte rouge, on a deux noms, et ça semble quand même plutôt évident. Les deux noms sont Nathaniel Hackett du côté des Broncos et Cliff Kingsbury du côté des Cardinals. J'ai envie de te dire, est-ce que la question, c'est pas tant de savoir s'ils vont être virés, mais c'est comment est-ce qu'ils pourraient se sauver?
J'ai envie de dire que le seul qui peut vraiment se sauver, c'est Kingsbury. Faudrait vraiment, tu vois, cette fin de saison où ils gagnent tout en NFC... Et les autres se foirent un peu, ils accrochent une wild card miraculeuse, comme il vient d'être prolongé en début de saison, tout comme notre GM. Bon voilà, ils pourraient avoir quelques réticences et dire allez, on continue un an de plus. Mais honnêtement, si on les a mis dans cette catégorie, c'est qu'on n'y croit pas vraiment.
C'est assez marrant, tu vois, moi je m'attendais à ce que tu me dises, quand tu me dis il y en a un qui peut encore sauver, je croyais que tu allais dire Hackett parce que c'est sa première année. J'avais oublié l'histoire que Kingsbury avait prolongé, donc en effet il y a de l'argent en jeu. Hackett, pour toi, c'est cuit-cuit, alors c'est fini, quoi.
Ah non, mais cette équipe est brisée. T'as vu le dernier match?
Malheureusement, j'étais dessus.
Cette équipe est brisée, enfin, je veux dire, il y a un moment... Il y en a eu un des coachs virés en première année, hein. Faut pas croire que ça arrive rarement.
Non, il y en a eu plein, on avait dit dans une autre émission.
Donc, pour le coup, cette équipe est brisée, il n'y a aucune dynamique. le quarterback, tu as signé pour 250 millions, donc de toute façon, il sera là l'année prochaine. Ton seul espoir, c'est de trouver la bonne personne pour relancer cette équipe et relancer Russell Wilson. Non,
les coachs virés après une seule saison, on rappelle Urban Meyer l'an dernier, Steve Wilks en 2018, Chip Kelly en 2016, Jim Tomsula en 2015, les 49ers qui avaient viré deux ans de suite des coachs de première année Kelly et Tomsula, Rob Chuzinski pour les Bands en 2013, Mike Mularkey en 2012 pour les Jaguars, Hugh Jackson en 2011 pour les Raiders, Jim Mora en 2009 pour les Seahawks. Enfin, il y en a plus. En 2007, il y en avait eu deux, en 2006, il y en avait eu un. Donc en fait, il y en a quasiment tous les ans, hein, ou un tous les deux ans, donc ce serait pas du tout une anomalie en fait, hein, que Hackett soit viré. Et je suis d'accord avec toi, 3 victoires, 8 défaites, pire attaque de la ligue, t'as fait l'investissement dans Russell Wilson, donc au moment où il faut faire un choix entre le coach et le quarterback, bon, t'as sûrement pas mal d'argent sur Hackett, hein, les contrats de coach sont pas ridicules et souvent ils repartent avec leurs indemnités, hein, c'est pas aussi facile à couper qu'un joueur. Mais oui, et après, tu vois, moi, Kingsbury serait sur le départ pour un peu la même raison, au sens où il a une prolongation, mais il y a l'investissement dans Kyler Murray aussi.
Oui, non, mais c'est ça, de toute façon, il y a un moment, si tu dois choisir entre coach et quarterback, dans les deux cas, tu es obligé de choisir le quarterback, mais Kingsbury, le truc, c'est que, bon, ça fait quand même 3 ans qu'il nous vend des débuts de saison où on se dit, waouh, génial, super, machin et tout, et puis ça se plante, ça se plante, ça se plante, ça se plante encore. Là, cette année, il s'est planté dès le début, donc au moins, il nous facilite la tâche. Mais
28 victoires, 32 défaites et aucune participation en playoff pour Cliff Kingsbury depuis qu'il est du côté d'Arizona. Donc, en effet, ça commence à faire long. On est d'accord, donc, les deux dans l'alerte rouge, a priori.
Pour moi, les deux, c'est fini.
En danger, nous avons Lovie Smith avec une seule victoire, les Texans. Josh McDaniels, 4 victoires, 7 défaites pour les Raiders. Et on a gardé que ces deux-là. Est-ce qu'ils sont... Lovie Smith. Alors, on va commencer par Lovie Smith. Une victoire, les Texans sont nullissimes, ils ont un effectif affreux. Et surtout, moi, j'avais envie de te dire, c'est qu'ils vont avoir probablement un nouveau quarterback à la draft. Est-ce que ça semble le moment logique, en fait, quoi, de changer aussi le coach, même s'il avait l'air d'être là en transition, comme l'équipe était en transition, en fait.
Oui, c'est ça. Mais du coup, tu te demandes quand même, vu qu'ils étaient en transition, pourquoi ils ont changé de coach l'année dernière, alors que celui d'avant avait fait mieux, tu vois. Bon, c'est toujours un peu le problème. On reviendra pas sur le débat de la tolérance pour certains coachs blancs, alors que les coachs noirs, dès qu'ils font une mauvaise saison, ils sont saqués. Mais enfin, Esterby n'est plus là.
J'allais dire que je suis pas tout à fait d'accord sur cet angle-là, parce que, pour le coup, Lovie Smith, c'est un coach afro-américain. Et pour moi, il fait partie de cette liste de coachs, bah, tu vois, comme les McCarthy, les machins qu'on appelle de temps en temps.
Lovie Smith, c'est l'exception qui confirme la règle.
Okay.
Et je pense qu'il a eu de la chance que son recrutement, ça se passe au moment de l'affaire...
Ryan Flores.
Flores, etc. Bon, bref. Mais Esterby n'est plus là. Donc, on peut considérer que cette franchise va peut-être commencer à prendre des décisions rationnelles. Je pense que tu l'as dit, il y a un moment, tu vas avoir le premier choix. Donc, tu vas choisir Bryce Young ou CJ Stroud ou un autre, on verra, mais normalement un des deux, bah, tu vas essayer de se dire quel est le mec qui peut le plus mettre en confiance ce quarterback. Okay. Mm. Et par définition, tu as plutôt envie, à mon avis, de prendre un esprit offensif. Mm. Et Lovie Smith, il est loin d'être mauvais, hein, mais par définition, ce n'est pas un esprit offensif majeur. Mm. Donc, tu vois, c'est le genre d'équipe qui va aller prendre un Station chez les Eagles ou ce type de mec en disant « Regarde, c'est l'attaque moderne. Vous allez voir, on va faire rouler ça, etc. » Voilà. Moi, je pense que ça va être comme ça.
Lovie Smith, ça pourrait se jouer là-dessus. Josh McDaniels, ça a l'air de jouer. Les échos, c'est que ça se joue sur l'argent. C'est qu'ils n'auraient pas les moyens et la trésorerie pour le virer.
Oui, mais ce n'est pas forcément étonnant. Pour le coup, là, on est sur un domaine que je connais bien, mais... Les gens s'étonnaient compte tenu de la valorisation de la franchise. Il y a une différence entre une valorisation et un cash flow disponible. Ils doivent quand même payer les indemnités de notre cher ami, j'ai perdu son nom.
McDaniels ?
Non, celui d'avant.
Ah, John Gruden, oui.
John Gruden, donc voilà, ce qui déjà a dû faire un gros trou. Là, c'est sûr que virer McDaniels, ça ferait très mal. En plus, bon an, mal an, on va dire qu'il commence à gagner quelques matchs. Je me demande si ça ne va pas suffire, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Lui, il est clairement en opération sauvetage. C'est que maintenant, là, il est vraiment... Je pense que pour moi, c'est le point d'équilibre là, dans la liste qu'on fait de ceux qui, entre ceux qui sont en danger réel ou pas. Lui, il est vraiment sur le point d'équilibre au sens où maintenant, il joue pour sa tête à chaque semaine. Et il a intérêt à faire un ou deux bons derniers matchs parce qu'on sait qu'on a la mémoire courte maintenant et que t'as intérêt à sortir sur un ou deux bons derniers matchs. À surveiller, dernière catégorie, Brandon Staley, 6 victoires, 5 défaites avec les Chargers. Dennis Allen, 4 victoires, 8 défaites avec les Saints. Matt LaFleur, 4 victoires, 8 défaites avec les Packers. J'aime bien cette catégorie parce que pour moi, c'est là où on est en train de chercher la surprise. Le licenciement du Black Monday qui va nous faire dire « Ah, celui-là, on l'avait pas forcément vu venir. » Et j'ai envie de commencer par Staley. Est-ce que c'est pas le « s'il n'y a pas de play-off, attention ».
Oui, moi je trouve pas que ça soit on l'a pas vu venir. C'est j'étais d'accord pour le mettre dans cette catégorie à surveiller au sens où c'est conditionnel. Mais si vraiment les Chargers loupent les playoffs pour une deuxième année d'affilée, il est dehors. Pour moi, c'est évident. Mais au moins, c'est binaire quoi. Playoff tu restes, pas playoff tu pars. Je suis persuadé que son avenir ne dépend que de ça.
Très bien. Et alors Matt LaFleur, est-ce que lui, il n'est pas un peu sauvé par je ne sais pas si Aaron Rodgers part à la retraite, par exemple. J'ai l'impression que ça sauve Matt LaFleur, de fait.
En fait, là aussi, je pense que la fin de saison va être importante. S'ils mettent un peu Rodgers sous prétexte de blessure sur le banc et que Love fait un ou deux matchs encourageants et tout, peut-être qu'on va dire « Oh là là, vous avez vu, il y a une connexion entre LaFleur et Love, c'est il ça. Peut le faire grandir l'année prochaine, blablabla. » Je pense qu'il y a quelques semaines, j'étais persuadé qu'il serait viré, malgré quand même trois dernières saisons en 13-3, hein, donc c'est pas une buse hein, à la base. Alors d'accord, il a Rodgers, etc. Mais je pense que la fin de saison va vraiment déterminer l'ambiance à Green Bay, qui n'est pas une franchise qui a tendance à virer à tout va. Hein. Je pense qu'ils vont réfléchir, c'est ça aussi. Etc.
C'est pour ça aussi que je dis ça. C'est qu'à mon avis, le contexte l'aide aussi à maintenir sa place du côté de Green Bay. Dennis Allen, qui ressemble à une sorte de transition... qu'ils ont fait aussi parce que Sean Payton part tard et qu'il est là, etc. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Alors après, c'est dur de juger parce qu'ils ont eu une très longue période de stabilité avec Sean Payton, donc et parce qu'il y avait à raison, parce que ça gagnait. Est-ce que là, il pourrait agir rapidement ou est-ce qu'il continue de lui laisser une chance en modifiant des choses dans l'effectif?
Bah en fait, le truc, c'est qu'ils ont eu 1 million de blessés.
Oui.
Ils ont pas de premier tour l'année prochaine. Pas de second tour dans 2 ans, d'ailleurs. Ils ont un cap space à moins 55 millions. Alors, ils rentreront dans les clous. Mais quand même, ça veut dire que tu as moins de... À partir du moment où les Saints, ils commencent à arriver au bout du truc. Hein. Ça fait 4 ans qu'ils restructurent tout le monde. Donc, ça limite quand même tes mouvements. Est-ce que vraiment, tu vas réussir à attirer un coach avec ça? Moi, je me dis, franchement, laisse Allen. Et s'il se plante la deuxième saison, bah là, tu pourras dire, on a un premier tour... On a viré quelques mecs pour avoir de la flexibilité financière et tout. Et tu seras un peu plus attractif. Mais aujourd'hui, t'es juste l'équipe, je suis désolé, hein, mais même s'il y a du talent dans l'effectif, pour moi, c'est une des équipes les moins attractives pour un nouveau coach. Donc, je laisserai Allen encore une saison, personnellement.
Un poste de coach, ça reste un poste de coach.
Oui, non, très bien, mais...
Puis New Orleans, c'est pas, tu vois, genre, c'est pas la ville la plus horrible, c'est pas...
Non, c'est pas la franchise, c'est une franchise qui est plutôt gérée de façon stable, avec des gens, je veux dire, qui font pas n'importe quoi, mais... Bon, voilà, moi, je serais pour donner une deuxième année, parce qu'en effet, c'est toujours difficile d'arriver après un mec qui était là depuis 15 ans et tout.
Allez, en un mot, Dan Campbell, Kevin Stefanski, je te les ai rajoutés par surprise. Dan Campbell est à 4-7 avec les Lions. Il gagne un petit peu maintenant, il commence à se sortir de la zone de danger.
Oui, je pense qu'à moins qu'il s'engueule et qu'il insulte tout le monde dans le vestiaire, ça devrait aller.
Kevin Stefanski, audition avec le retour de Deshaun Watson ou on dit que c'est sa pré-saison pour l'année prochaine?
C'est sa pré-saison pour l'année prochaine. Pour moi, ils sont partis avec lui et Watson. Très bien. L'année prochaine.
Pronostic, du coup, à la fin, qui sera viré? Kingsbury, Hackett, on a dit OK. Ensuite, il te reste Lovie Smith, Josh McDaniels, Brandon Staley, Dennis Allen, Matt LaFleur. Je te demande pas qui, toi, tu virais. Je te demande qui, pour toi, va être viré.
Lovie Smith et Brandon Staley.
Moi, je dirais Smith, Staley et Allen pour une semi-surprise, allez. Et ils vont, les Raiders, ils vont continuer avec McDaniels parce que sinon, c'est pas drôle. On passe à l'affiche de la semaine. Stop, I don't do L'affiche de la semaine qui est magnifique entre les San Francisco 49ers à 7 victoires, 4 défaites et les Miami Dolphins à 8 victoures pour 3 défaites. Les 49ers ont la meilleure défense de la ligue sur les yards encaissés et les points encaissés. Les Dolphins ont la 3ème attaque en NFL. Est-ce que c'est vraiment le grand test de Tua Tagovailoa? S'il sort 30 points contre cette équipe, par exemple, on dit ça y est, c'est le petit couronnement. On oublie vraiment toutes les difficultés de début de carrière.
Je vais même aller plus loin que ça.
Oh, il va dire MVP.
Je pense que s'il fait une grosse performance pour San Francisco, il va se placer sérieusement dans la course au MVP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il est dans la course à la deuxième place avec Jalen Hurts et Josh Allen.
Il a dit les mots.
Mais je pense qu'une grosse performance contre San Francisco, là, on va commencer à parler MVP.
19 touchdowns pour seulement 3 interceptions, Tagovailoa, cette année. J'avoue que je trouve ça dingue. J'avoue que je me suis largement trompé sur lui.
Ah, mais moi aussi, je l'ai bâché.
Ses premières saisons.
Toute intersaison, c'est incroyable.
Après, on l'a dit, hein, ça fait plaisir. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de rage à dire que je me suis gouré, au sens où c'est ce qu'on disait avec Raphaël dans une émission précédente. Plus il y a de bons quarterbacks, mieux c'est à regarder. Donc, tant mieux. Mais ouais, franchement, je pensais pas me tromper à ce point-là, au sens où, oui, il y a Hill et Waddle. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'avoir des cibles, clairement, mais en effet, j'avais des doutes, même entouré, je me disais, pas sûr, quoi, il ferait les minima, etc. Mais voilà, l'équipe tourne hyper bien, ça marque, c'est vraiment impressionnant. Pour revenir à cette opposition, avec Hill et Waddle, justement, il y a de quoi déborder les 49ers, normalement, sur le papier. Mais ce qui est étonnant avec cette équipe de San Francisco, Victor, c'est qu'elle tient bien, elle est excellente en défense, malgré un groupe de cornerback et de safety qui n'est pas incroyable sur le papier.
Bah, qui est diminué par les blessures aussi.
En plus.
Je reste sceptique. Enfin, sceptique. Remettons l'église au milieu du village. On parle d'une top 2, et je dirais même pas deuxième, défense de la Ligue, d'accord ?
Donc, ils sont numéro 1 statistiquement. Hein.
Non, mais je veux dire, on parle de la meilleure défense de la Ligue et du meilleur front 7 de la Ligue. À côté de ça... J'attends quand même parce que, je veux dire, un joueur comme Ward, Charvarius Ward, je suis pas sûr que ça suive Hill ou Waddle. Et même la paire de safety, par exemple, Ufanga, c'est un marteau, hein, j'adore, il était incroyable à USC, mais c'est pas un joueur de couverture, tu vois. Et ça va quand même être une menace assez inédite parce que je pense que quand même, cette attaque de Miami, ce qui fait qu'elle marche autant, c'est que c'est assez inédit d'avoir une puissance de feu à ce point-là. J'ai peur qu'il souffre quand même, mais j'ai envie de dire que la clé pour San Francisco, c'est que bah, Tua, il ne doit pas avoir le temps de les trouver, en fait. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, il doit être par terre.
Là où c'est plutôt étonnant, justement, encore une fois, cette domination statistique des 49ers, c'est qu'ils ont 33 sacs. Ce n'est pas le plus gros pass rush de la ligue non plus.
Ouais, ils ont 33 sacs, mais enfin, sur chaque pression, enfin, sur chaque action... Ils mettent la pression, ils bloquent les lignes de passe, etc. C'est-à-dire que c'est... Oui, d'accord, il n'y a peut-être pas 5 sacs à la fin, mais j'aimerais bien voir, par exemple, le nombre de pressions. Je suis sûr qu'ils sont vraiment très hauts.
Il n'y a qu'une seule équipe qui a mis plus de 16 points aux 49ers cette année, ce sont les Chiefs. Ils en ont mis 23. Sinon, ils ont pris plus de 16 points dans aucun match, dans aucun autre match cette année. Ils n'en ont autorisé que 7 aux Seahawks, ils n'en ont autorisé que 9 aux Rams, ils n'ont autorisé que 14 aux Falcons, 14 aux Rams, 16 aux Chargers, 10 aux Cardinals et 0 aux Saints, notamment. La faiblesse relative, parce que de l'autre côté, là on disait ça va être un peu force contre force, l'attaque de Miami contre la défense de San Francisco. Après, je ne vais pas dire faiblesse contre faiblesse parce que c'est relatif, mais l'attaque des Niners contre la défense des Dolphins. Les 49ers, mine de rien, ont la 10ème attaque de la Ligue sur les yards gagnés, mais on va dire c'est un style laborieux mais efficace. Est-ce que ça peut suivre si jamais Miami accélère un petit peu?
Tu me permettras de dire, il me semble qu'ils prennent 28 points contre les Falcons, mais après...
Ah oui, pardon, dans la défaite, j'ai regardé que les scores des victoires.
Mais pour le coup, je pense qu'il y a un touchdown défensif, donc bon. Ça reste pas un gros score. Pour répondre à ta question, bah, c'est assez marrant, c'est qu'on a deux membres de, on va dire, de l'école Shanahan, père. Et on voit, tu sais, on disait beaucoup de McVay, oh, vous avez vu, il s'adapte. Quand il avait Gurley, il jouait au sol. Quand il a eu Stafford, il a joué dans les airs. Bah, là, c'est un peu pareil, t'as deux mecs qui s'adaptent. C'est-à-dire, ils ont la même philosophie de jeu, sauf qu'il y en a un qui a Waddle et Hill. Et il y en a un qui a Samuel et Ayuk, qui sont des joueurs peut-être moins menaces profondes, mais plus yard après réception, etc. Et forcément, t'as un quarterback qui est différent aussi, même si pas si différent dans l'esprit. Je trouve que ces deux équipes qui sont efficaces, là où San Francisco sera peut-être un peu plus contrôle de l'horloge, etc., Miami va être un peu plus explosivité, gros jeu, etc. Mais ça reste des philosophies qui sont très, très similaires. Et je pense que les deux lignes offensives vont avoir un sacré boulot. Parce qu'il va falloir ouvrir les brèches.
Ouais, et tu l'as dit, une des clés pour Miami, ce sera peut-être l'absence de Terron Armstead, hein, qui risque de faire mal pour la protection de Tua Tagovailoa, pour l'ouverture des brèches, pour tout ça. Ce sera une des clés de ce match-là, et évidemment, donc tu le disais, les tranchées. La défense qui pourrait faire mal à Miami, quand même, c'est pas la référence. Ils sont moins forts. Ils donnent l'impression d'être moins forts en défense que sous Brian Flores. Qu'est-ce qui leur manque, je trouve, pour passer? Non, je les trouve un peu en dessous. Il leur manque peut-être un petit truc pour solidifier tout ça.
Oh, moi, je trouve qu'ils sont quand même très forts dans les tranchées. Ce qui leur manque, c'est Byron Jones, hein, qui n'est toujours pas revenu. C'est parce que Howard, il fait une saison moyenne. Et de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je pense que ce qui manque à cette équipe, c'est Byron Jones. Je ne sais pas s'il reviendra ou pas. Je pense que quand tu es parvenu au bout de 12 semaines... Ça commence un peu à puer quand même, hein, si tu me permets l'expression. Mais non, je trouve qu'il y a quand même une grosse ligne, il y a de la pression. C'est sûr que ce n'est pas aussi phénoménal que San Francisco, mais ça reste très bon. Je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment dur pour les deux équipes.
Il y a peu d'interceptions, hein, c'est vrai, dans cette équipe pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 interceptions au total, dont 2 pour Javon Holland. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quel scénario pour toi dans ce match ? Offensif ou défensif?
Oh, un peu des deux pour moi. Ça va être un match entre deux mastermind offensifs. Un match qui va finir à 24-20, 27-24, un truc comme ça, quoi. Un équilibre entre attaque et défense. Tu sais, c'est deux équipes qui vont quand même beaucoup contrôler l'horloge. Donc, j'imagine pas 35 ou 40 points.
Donc, Miami s'échappe pas, par exemple, avec des coups d'accélérateur et force Jimmy Garoppolo à la faute, ce genre de choses-là. Ce que j'essayais d'évoquer quand je parlais de suivre le rythme.
Ouais, un peu plus de mal à y croire. Je pense que les deux équipes vont être propres. Ça va vraiment être les tranchées, yard après yard. Et puis, il y a une équipe qui sera un petit peu plus efficace que l'autre.
Très bien. Le pronostic.
Je vais y aller sur 49ers.
Oh.
Parce qu'ils sont à domicile, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique.
Très bien.
Mais encore une fois, vous pouvez largement défendre les deux camps.
Exactement, parce que je vais défendre les Dolphins. Ma conversion est totale. J'étais un hater, maintenant je suis un lover, dira-t-on, je suppose. Mais oui, non, je suis converti, j'ai retourné ma veste, tout ce que vous voulez. C'est bien en attaque et je pense encore une fois que ça peut être compliqué de suivre pour Jimmy Garoppolo s'il y a un petit peu d'avance. Donc je vais partir sur Miami et les autres pronostics, c'est maintenant.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
We're gonna work on three. 1, 2, 3, work!
les pronos, et les pronos avec une semaine 12 qui a été plutôt pas mal parce qu'on a 2-13 sur 16, il y avait 16 matchs, ah oui il y avait 16 matchs avec Thanksgiving, donc Grégory et Lucas sont à 13, c'est la revanche du groupe Eto la semaine dernière, 11 points pour Victor, Raoul et moi, et Raphaël qui fait sa plus mauvaise semaine avec 10 points. Au classement général, bah, je suis tout seul en tête, dis donc maintenant, avec 2 points d'avance sur Greg et Victor, puisque j'ai 108 points pour moi, et j'arrive enfin aux 60% de mon prono. 60% tout rond. 108 pour moi, Grégory 106, Victor 106, Raoul 104, Raphaël 104, et Lucas 100 tout rond. Du côté donc du hypomètre, alors là je vous le dis, hein, Victor il est chaud bouillant, je vais le laisser commencer parce que donc on a 49ers Dolphins en affiche de la semaine, et qu'est-ce que tu as derrière?
Bah écoute, la revanche de la finale de conférence de l'année dernière, Bengals Chiefs, je pense que là ça souffre de pas beaucoup de débats.
Écoute, non, on l'avait mis en affiche de la semaine, hein, pour tout vous dire avant, et puis après on se dit, ouais, quand même le Dolphins Niners il est sympa.
Oui, parce que j'ai mal filtré, c'était ma
c'est
faute.
Pas grave, c'est pas grave.
Mais bon, pour le coup, oui, bah, écoute, les Chiefs, quand même, ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu les Chiefs insolents d'année du titre. Tu sais, où ils sont menés de 4 points, tu leur donnes le ballon, il reste 1 minute 30, et en fait, tu sais qu'ils vont y aller, quoi. Tu sais qu'ils vont le faire, enfin, t'as l'impression que ils trouvent toujours un moyen de gagner parce qu'il y a trop de talent. Et ce qui est incroyable, c'est que Mahomes, il fait ça pas avec Tyreek Hill, quoi. Il fait ça avec Smith-Schuster, Valdez-Scantling et compagnie, quoi. Donc, c'est une équipe qui est sûre de ses forces, on va dire. Et de l'autre côté, on a un Cincinnati qui monte en puissance et qui, en plus, là, maintenant, ça risque d'être cas, va récupérer Jamar Chase. Donc, ils vont se retrouver avec Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd et compagnie. Bah, ils peuvent donner mal à la tête au defensive back des Chiefs. Donc, vraiment, pour moi, on a deux attaques qui doivent exploser dans ce match.
Après, Jamar Chase, je me méfie toujours un peu des retours.
Oui, enfin,
les premiers
oui.
matchs de retour. Ça fait toujours un peu mal. Mais l'an dernier, je rappelle quand même que les Chiefs menaient 21-3 dans la finale de conférence avant de perdre contre les Bengals. Parce qu'en effet, Jamar Chase et compagnie avaient explosé.
Les Chiefs s'étaient écroulés en deuxième mi-temps de partout.
Les Chiefs restent plus réguliers en attaque. Les deux défenses, je trouve, ont des traits un peu similaires, mais celle de Kansas City atteint peut-être un peu plus souvent le quarterback adverse. Je trouve les Chiefs plus complets sur le début de saison, donc je vais prendre les Chiefs, mais ça risque d'être un très très beau match, hein, clairement.
Oui, bah, j'ai pris les Chiefs aussi par prudence, mais honnêtement, j'y ai pensé parce que les Bengals, c'est pas loin.
Ouais, c'est vrai que les Bengals, c'est pas si loin que ça. Les Vikings contre les Jets, pour moi, derrière. Gros test pour la défense des Jets. Le duel Sauce Garner-Justin Jefferson, voilà, ça va être régalade. Hein. Moi, j'avoue que je suis de la team qui regarde le ballon. Hein. Je vais pas faire semblant d'être l'expert qui regarde des hommes de ligne en particulier, des machins. Je regarde le ballon quand ça joue. Mais là, si vous voulez vous marrer à essayer de regarder quand il y a le duel, ça peut être sympa, je pense. Après, la clé du match, elle est peut-être pas là pour moi. Je pense que ça peut être aussi contre le sol. C'est-à-dire que si les Jets limitent bien Dalvin Cook et compagnie et que Garner fait son truc, je sais pas, il peut y avoir pas mal de choses en fait. Mais je pense que ça peut être intéressant de prendre le pouvoir au sol pour mettre le quarterback dans des bonnes conditions. Et puis McWhite, hein, deuxième. Donc ça prend des yards, hein, les Vikings. Donc McWhite, il va avoir des opportunités. S'ils sont réalistes, il y a des points à mettre. Franchement, attention surprise. Moi, je prends les Vikings, mais attention surprise dans celui-là, tu vois.
Bah, je suis même pas sûr que ça soit une surprise. Enfin, oui, les Vikings sont un peu favoris, mais globalement, il y a deux excellentes équipes qui peuvent vraiment réussir. Comme tu dis, il y a quand même cette hype un peu Mike White. Enfin, vraiment de voir si c'était juste un match. Parce qu'il avait déjà fait un gros match, hein, il y a un an, là, quand il était rentré. Donc, voir s'il peut mener de manière constante cette équipe, qui a l'air d'aller mieux avec lui. En tout cas, l'entente avec les receveurs a l'air bonne. J'ai envie de dire que les Vikings, ils ont tout à perdre. Ils sont dans une période un peu dure. Hein. Ils se sont fait casser par les Cowboys. Ils gagnent difficilement aux Patriots. Il y a un moment, il va falloir retrouver un peu de sérénité. Et d'un autre côté, tu as l'impression que les Jets, ils n'ont rien à perdre. Donc, ça va vraiment aller dans les deux sens. Je mets les Vikings quand même, mais attention là encore.
Ouais. Ça va être un beau match. Et scénario playoff, victoire de Minnesota plus défaite des Lions égale victoire des Vikings dans la division et donc qualification pour les playoffs. Match suivant.
Match suivant, un match titanesque entre les Eagles et les Titans. Écoute, on a vu une démonstration offensive des Eagles face aux Packers, ce qui est plutôt un bon message dans cette course à la NFC. Là, tu te retrouves avec deux équipes qui vont, entre guillemets... Enfin, c'est un match piège pour moi, pour les Eagles, parce qu'ils sont un peu faibles contre la course. Ils vont affronter Derrick Henry. Mm. Ils sont parfois un peu friables au niveau du coaching en défense. Ils vont affronter Mike Vrabel, qui est quand même un génie du coaching. Donc, ça va vraiment être cette guerre de tranchées entre les deux équipes, où tu as une équipe, les Eagles, qui doit prendre le dessus, parce que le jeu de course qui tourne, même le jeu de passe, enfin, globalement, l'attaque est flamboyante, etc. Mais attention à la spéciale Titans, qui provoque 3 pertes de balles, qui va gagner un 16-13 des familles. J'ai hâte de voir ce match.
Ouais, voir si Philadelphie peut stopper Derrick Henry, clairement, parce que les Titans sont la 29e attaque aérienne de la Ligue, donc quand tu stoppes Derrick Henry, c'est toujours plus simple. Philly concède 120 yards par match au sol, donc voilà, attention. Après, évidemment, je pense que Philadelphie a beaucoup d'armes à montrer qu'il pouvait gagner de toutes les manières, donc je vais miser Philadelphie. Scénario playoff, ce est un peu plus compliqué. Hein. Victoire des Eagles, plus défaite des Commanders, des 49ers et des Seahawks, égale qualification en playoff pour Philadelphie. Bon, il y a des chances qu'il faille peut-être attendre une semaine. Là. Celui-là, on vous le donne parce qu'il existe, hein, mais c'est vraiment le suivant. Donc, Eagles pour tout le monde ?
Pour tout le monde, non, puisque Raoul a mis Titans.
Oui, pardon, je parlais entre nous, à l'antenne.
Oui, oui, tout.
Les Patriots contre les Bills pour moi derrière. Je vais prendre le match du jeudi. Beau match du jeudi avec des Bills qui pourraient être mis en difficulté par une très belle défense de New England. Les Bills ont perdu 19 ballons cette saison. Il n'y a que les Colts et les Saints qui font pire. Et c'est pas franchement des prétendants au titre, hein, donc en théorie, les Bills n'ont pas grand-chose à faire dans cette zone-là. Bon, il va falloir que les Patriots soient très très réalistes, ce qui n'a pas été le cas récemment, même si Buffalo perd des ballons, parce que Buffalo peut gagner même en perdant un ou deux ballons. Mais voilà, match intéressant, match de division, entre deux équipes en positif. Donc les Bills, pour moi, mais match intéressant.
Ouais, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que les Bills, mais tu sais, Bilou contre l'AFC Est, t'as toujours
y a match.
Ouais, t'as toujours l'impression qu'il a un ascendant psychologique sur toutes ses équipes. Je pense qu'en fait, ça risque de ressembler un peu au match des Vikings, c'est-à-dire des Patriots braves, mais des Patriots trop limités quand il y a beaucoup de talent en face.
Oui, c'est ça. Moi, je suis pas, en effet, je suis pas convaincu qu'ils aient tout le matos quand même pour rivaliser. Du coup, Patriots pour toi aussi.
Patriots. Bills.
Bills, pardon. Je tiens à dire que pour l'instant, on a exactement le même ordre des matchs parce que je fais des petits cop-calls dans ma fiche pour garder l'ordre en tête qu'on est en train de faire et pour l'instant, je n'ai rien touché.
Alors, oui et non. Tu as pris mon sixième et j'avais un cinquième avant.
Ah, d'accord. Mais en tout cas, moi, ça colle à ce que j'avais prévu pour l'instant.
Ouais, à un près, moi aussi, mais c'est très similaire. Giants Commanders.
On y était presque à l'harmonie parce que je l'avais juste en dessous.
Ouais, je pense que je vois ce qui se profile après. Écoute, c'est Giants Commanders. Donc, la NFC Est, comme attendu, est positive de partout, hein, évidemment, comme attendu. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux, c'est loin d'être joué, évidemment, dans cette division, mais tu as quand même deux équipes à dynamique totalement différente. Les Giants ont théoriquement un meilleur bilan, 7-4 contre 7-5. Mais les Giants, ça reste sur deux défaites d'affilée, beaucoup de blessures, une identité au sol qui commence à se perdre un petit peu, une défense qui est compliquée, etc. Et d'autre côté, Washington, c'est 5 victoires en 6 matchs ou 6 victoires en 7 matchs, je ne sais plus. Une identité qui est là, hein, jeu au sol, un petit peu de passe, grinta, défense qui retrouve enfin un vrai mojo, Young qui va peut-être enfin revenir, hein, Chase Young.
Il cumule. Hein.
Ouais, il cumule un peu. Mais globalement, moi j'ai l'impression que c'est le moment où on va se dire « Ah, les Commanders sont vraiment une équipe de playoff, alors que les Giants, plus vraiment. »
C'est ce qu'on a évoqué hier avec Raphaël. J'ai l'impression que c'est le moment où les courbes se croisent, un peu comme on dit dans les sondages de présidentiel ou de machin. C'est que j'ai l'impression que c'est le moment où, en effet, on va dire, ah, finalement, peut-être que ces Giants, ils sont pas si forts que ça, et qu'en effet, ces Commanders, ils sont peut-être un peu meilleurs. Et ouais, je suis un peu comme toi, je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent, mais il y a meilleur quarterback, il y a meilleur receveur pour les Commanders.
Et il y a beaucoup moins de blessés.
Et il y a beaucoup moins de blessés, clairement. T'as raison aussi de le préciser. Donc ouais, je trouve que pareil, je vais aller sur les Commanders parce que et Washington repassera même littéralement devant au classement. C'est pour ça qu'en plus les courbes se croisent, c'est que ils vont repasser devant les autres au classement s'ils gagnent ce match. Et pour moi, c'est Commanders également. Je vais en AFC pour le suivant, Raiders Chargers. C'était ça que t'attendais ?
C'était ça que j'attendais.
Gros potentiel offensif, Josh Jacobs qui sort d'un match monumental à plus de 200 yards au sol, les Chargers qui sont en grosse difficulté contre la course. Donc dans les faits, il y a un coup à jouer. D'autant qu'en face, les Raiders sont perméables dans les airs, donc Justin Herbert doit aussi... il y a un potentiel match de dingue que j'aime bien. Ça peut être un match vraiment complètement what the fuck.
Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je veux dire, c'est un match de division, c'est alors là, il y a la pancarte match piège en 15 mètres sur 15 mètres devant le stade. Je veux dire, un Josh Jacobs ou un Davante Adams des grands soirs, des Chargers qui nous font des Chargers avec deux petits fumbles quand il faut et tout. Non, vraiment, ce match-là, et on rappelle que c'était un peu le match de play-off avant les play-offs de l'année dernière, hein, sur la dernière semaine, où les Raiders passent devant les Chargers. Ils auraient même pu passer tous les deux en cas de match nul, mais bon, ils ont pas joué le coup. Non, je pense que là, globalement, moi j'ai l'impression que c'est le match où les Chargers vont se planter, on va dire ouais, bon, c'est bon.
Ah ouais, donc tu annonces et tu pronostiques, tu oses ?
J'annonce et je pronostique Raiders.
Tu y vas, quoi.
Bah en fait, le truc, c'est que, tu vois, je sens que c'est le jour où les wildcards, on va se dire ouais, bah c'est Bengals Ravens, un des deux, et deux d'AFC Est, et les Chargers vont encore se retrouver à la porte, quoi.
Ok, très bien. Je vais quand même aller sur les Chargers, moi, au niveau du prono. Qu'est-ce que tu avais derrière ?
Eh bien, derrière, je retourne en NFC, je retourne sur un excellent match de division. Buccaneers contre Saints. Alors là, on est sur de la division négative. Hein.
Ouais.
On n'est pas sur la NFC Est, mais il y a un moment où, par définition, tu as un champion de division qui va en play-off. Et donc ces matchs-là, ils vont valoir 6 points, comme on dit dans le milieu du ballon rond. Même si évidemment tous les matchs valent 3 points, mais ça c'est un autre débat. Globalement, c'est, avec les tie-breakers, en vrai c'est peut-être plus vrai au foot américain qu'au football. Mais les Buccaneers, moi j'étais en mode, mais vous avez vu, ils reviennent, ils ont une dynamique, ils ont 2 victoires, etc. Toi tu m'as dit, écoute, tu t'enflammes mon bonhomme. Et en effet, je me suis quand même sacrément enflammé parce qu'ils ont réussi à perdre face aux Browns de Jacoby Brissett. Écoute, cette équipe, l'élan est brisé. Je ne sais pas si ça vient du coaching, je ne sais pas si ça vient de la relation entre les joueurs, de ce qui s'est passé autour de Brady dans l'intersaison. J'en sais rien, mais ça tourne pas. Ça marche pas. Et d'autre côté, les Saints, en soi, ça marche pas des masses non plus, mais ils ont énormément de talent. Ils sont jamais qu'à un match et demi des Buccaneers. Mmh. Écoute, franchement, un gros match de Camara, un Dalton qui nous fait son Dalton comme on aime et tout, c'est pas impossible, quoi. Donc, c'est un match en jeu et c'est un vrai 50-50. Donc, j'ai envie de voir, même si au niveau du jeu, j'ai bien conscience que ça sera pas un top match.
Ouais. J'avoue que moi je l'avais un peu plus bas sur la qualité de jeu. Après, ces deux équipes évidemment qui. C'est un match à enjeu, quoi. C'est ça le truc aussi. C'est que c'est vraiment un match à enjeu. Voilà, ces deux équipes qui sont dans la course au play-off malgré le niveau. Et ça me fait peur pourtant pas la perte de Tristan Wirfs, cette attaque, qui avance pas alors qu'on pensait que ça irait un peu mieux. Donc, je l'avais un peu plus bas. Je pense que les Buccaneers vont gagner au forceps, quoi. Que ça va vraiment être un. Sorte de combat, je sais pas comment dire, tu vois, combat rapproché, guérilla urbaine, quoi. Mais bon, match intéressant parce qu'à enjeu, c'est le Monday Night Football, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Buccaneers pour moi, tu prenais qui du coup ?
Buccaneers aussi.
Les Lions et les Jaguars pour moi. allez hop, plutôt des mauvaises défenses dans l'ensemble. Donc match potentiel fun, match envie de voir les progrès de Trevor Lawrence. Et je pronostique les Lions à l'expérience. Si on peut dire ça pour une équipe relativement jeune et coachée par Dan Campbell, mais tu vois ce que je veux dire.
Ouais, j'ai la même logique. J'ai l'impression que cette équipe a quand même un talent offensif qui est un peu supérieur, même si on n'est pas à l'abri que les Jaguars soient vraiment libérés par cette victoire un peu
peut-être
miraculeuse. Enfin, j'ai pas envie de dire miraculeuse parce qu'ils l'ont mérité, mais victoire assez sensationnelle. Peut-être que ça va être le jour du déclic de Trevor Lawrence. Hein. Mais en attendant, ouais, moi j'ai envie de voir jouer Lions.
Ouais. Ouais, on va attendre de voir. Qu'est-ce que tu avais derrière?
J'ai un petit cas de conscience.
Il y en a un auquel on va arriver, on est d'accord, je crois qu'on a tous le même cas de conscience.
Ouais, pour l'instant, on va le faire attendre un peu. Falcons Steelers. Parce que les Falcons, ils n'arrêtent pas de me décevoir ces dernières semaines. Je dis toujours, oh, ils sont fun. Mmh. En attendant, là, c'est de moins en moins fun. Ça a toujours d'identité au sol et tout ça, hein, mais bon, c'est un peu friable. Mais malgré tout, ils sont à un demi-match des Buccaneers aussi.
Donc, ah ouais, c'est vrai.
Bah ouais, bah oui, non, mais... Donc c'est le genre de match, bah, il faut gagner, quoi. Il faut garder la pression face aux Bucks. Et ça sera pas forcément évident, parce que les Steelers, écoute, bon an, mal an, ça trouve un rythme. C'est pas désagréable d'avoir joué ces dernières semaines. Donc je trouve que c'est une équipe qui est en progrès. Et j'ai envie de voir, parce que je serais pas non plus étonné de voir un petit... upset, comme on dit, si ce n'est que, à mon avis, c'est un match un peu 50-50, mais je sais pas, c'est un match qui peut être agréable d'avoir joué, je pense.
Ah, mais attends, si tu parles d'upset par victoire des Steelers, moi je mise dessus, donc.
Ouais, en fait, je suis en train de voir, parce que moi j'avais mis les Steelers, mais je suis en train de voir qu'en fait tout le monde a mis les Steelers.
Mais oui. Moi, franchement, je pense que les Steelers, avec leur défense, pour embêter Marcus Mariota, il n'y a pas une attaque fabuleuse non plus, tu vois, d'Atlanta. Il n'y a pas une défense fabuleuse d'Atlanta non plus. Donc, avec Kenny Pickett qui ne fait pas trop d'erreurs, pour moi, ça passe, tu vois. Ils vont marteler au sol aussi. Hein. Ça va être un match de coureurs, hein, grosso modo. Ça va essayer de limiter l'impact des quarterbacks des deux côtés. Donc, pour moi, j'y allais avec les Steelers. Tu vois, ils ont gagné leur dernier. Je pense qu'ils peuvent enfoncer le clou sur celui-là.
Ouais, bah moi aussi, du coup.
Très bien. Bon, allez, le cas de conscience, j'y vais, parce qu'il faut bien qu'on y aille. Hein. Texans, Browns, le retour de Deshaun Watson. Son dernier match, c'était le 3 janvier 2021, avec les Texans contre les Titans. Donc, on est il y a 23 mois, grosso modo, quasiment 2 ans. Il avait lancé 3 touchdowns pour une interception, 365 yards à la passe. Voilà. Il n'est pas très haut en un sens, parce que les Browns ont gagné. Ça semble... Alors, j'aurais pas dû faire une phrase comme ça à l'impératif. Ça, c'est le genre de truc qui te revient dans la tronche. Parce que les Browns semblent en mesure de largement gagner. Après, voilà, bah ouais, on est tous... voilà, on va regarder Deshaun Watson jouer. Je réfléchissais à pourquoi c'était un cas de conscience. Alors, tu vas me dire si c'est un peu pareil pour toi. C'est que, presque en un sens, Michael Vick qui revenait, par exemple, il avait purgé sa peine.
Exactement.
Tu vois, il avait eu une peine, il avait purgé quelque chose, et donc bah, quelqu'un a purgé sa peine, le système est fait comme ça, tu le respectes, etc. Ce qui est dur avec Watson, c'est que tu as l'impression qu'en fait, bah, il n'y a eu aucune conséquence quoi, pour lui. Il est accusé d'avoir agressé 22, 23 personnes, je ne sais plus à combien on en était. Donc, il a montré aucun remords. Il y a ces témoignages devant, enfin, ces dépositions qui sont quand même assez répugnantes où il explique qu'il ne savait pas pourquoi les femmes en question pleuraient à la fin des séances. Bon, c'est répugnant. T'as l'impression qu'il n'y a eu aucune conséquence. Donc, je pense que c'est ça va passer parce que malheureusement, on est comme ça. Malheureusement, l'actu avance. Malheureusement, le sport, au bout d'un moment, fait oublier des trucs. Mais là, c'est impossible de ne pas avoir un goût un peu amer à le revoir. Moi, j'espère que les supporters des Texans vont être créatifs et qu'ils ne vont pas le lâcher pendant tout le match.
Bah écoute, moi je suis un peu connu sur Twitter et sur le Slack pour être un peu, on va dire, sans concession avec ça. Je souhaite à Deshaun Watson de perdre tous ses matchs, comme je n'admirerai jamais des Karl Malone, des Kobe Bryant, des Derrick Rose ou des Ray Lewis. Écoute, franchement, et en plus, si on parle vraiment du terrain, quand bien même il soit un excellent quarterback intrinsèquement, Il n'a pas joué depuis 2 ans.
Ah mais c'est ça, ça fait 2 ans, c'est une énigme.
Je veux dire, en termes de rythme, c'est quand même très difficile de dire « Oh, il va être en rythme quoi ». Surtout qu'en pré-saison, il avait été assez dégueu, hein, de mémoire.
Ouais, je crois. Ouais, il n'avait pas été exceptionnel. Mais après, le gars de conscience, moi, je ne vais pas le mentir, il n'y aurait pas cette situation extra-sportive. Le match serait probablement un dans mon hypomètre parce que je me dirais un des franchise quarterbacks de la Ligue revient sûr. Après 2 ans. Et voilà. Mais après, sûr. Il revient après 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il est dégueulasse.
Mais et il a en effet, parce que le système judiciaire est comme ça, pu indemniser, entre guillemets, les victimes pour ne pas avoir de procès au civil. Il n'y avait pas assez de preuves pour le procès au pénal. Tant mieux pour lui, si tant est qu'on puisse dire ça. Ouais. Moi, franchement, j'en suis à un point où... Je lui souhaite même pas de se blesser, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, il faut qu'il se blesse
ouais, ».
Non,
ouais, ouais.
Faut qu'il soit mauvais et qu'il ouais. perde. Faut pas qu'il se blesse, faut qu'il perde chaque semaine. C'est ça.
Et au passage, c'est malheureux pour leurs supporters, mais je souhaite aussi aux Browns de regretter cette décision.
Ah, j'en souhaite sans temps de malheur, hein. C'est horrible. Hein.
C'est horrible.
Mais vraiment, alors, est-ce que... Parce qu'on sait très bien, la NFL, ils ont pas donné 11 matchs de suspension par hasard. Ils ont donné 11 matchs pour qu'ils reviennent exactement contre les Texans. Soyons clairs.
Oui, c'est vrai que 11 en plus, c'était genre inédit. Non, c'est un compte c'est... complètement sorti du parc.
Ils donnent toujours 4, 6, 8, 12, 14 et là, ouais. d'un coup, ils donnent 11. Bon, ouais. tu me feras pas croire que c'est un hasard. Franchement, s'ils perdent contre les Texans, là, on serait sur un karma très, très ouais. élevé. Quoi. Ça serait assez incroyable. Ouais.
Comme dit, j'espère au moins que l'accueil sera à la hauteur. Parce que, mine de rien, les Texans avaient été plus honorables que les Browns, par exemple. Parce que les Texans l'ont foutu sur le banc toute la saison, en un sens.
Ouais, mais apparemment, ils l'ont quand même couvert pendant des longs mois. Donc,
ouais, c'est
je
ne
sais
vrai,
pas si honorable est vraiment le mot.
Non, mais t'as raison. Je ne sais même plus pourquoi je parle d'honorable en NFL quand il s'agit d'extra-sportifs.
Ouais.
Bon, le prono, c'est Browns pour tout le monde, on est d'accord ?
Oui.
Acheté. Les matchs suivants, allez, faut qu'on enchaîne.
Oui, on a perdu un peu de temps. Écoute, ouais. Cowboys.
Ouais, j'avais le même.
Bon, les Colts, ils jouent avec leur force. Ils en ont pas énormément. Mais on va dire qu'il y a une sorte de stabilité depuis l'arrivée de Saturday. Ce que j'attends surtout, c'est les Cowboys. Bah, vas-y, continue à marteler comme ces dernières semaines. Continue à faire tourner ton attaque pour être en forme pour les playoffs. Parce qu'aujourd'hui, les Cowboys, comme les Eagles, comme les 49ers, c'est les équipes qu'on voit très souvent revenir pour les finales de conférence au Super Bowl. Les Cowboys, ils n'ont pas eu de finale de conférence depuis 1995. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'ils montent en puissance. Il faut continuer à faire chauffer Prescott. Et, sauf mon respect pour Indianapolis, je vais surtout regarder Dallas.
Oui, moi, Dallas a 45 sacks. Donc, j'ai un peu peur pour Matt Ryan. J'avoue que j'ai peur pour la santé de Matt Ryan. J'ai peur qu'il se fasse tuer dans ce match. Je vais miser, du coup, les Cowboys. Les Rams et les Seahawks derrière pour moi. Deux défaites pour Seattle. Là, on rentre dans la zone un peu plus compliquée. Il en reste 3. Deux défaites de suite pour Seattle. Je pense qu'ils peuvent se refaire. En face, il n'y a plus Stafford, il n'y a plus Kupp, il n'y a plus Robinson. Donald a mal quelque part maintenant, donc il pourrait même être absent de ce match-là. Ouf, ça fait mal, ça fait beaucoup d'absence. Bon, voilà, on ne va pas le redire 10 fois. Hein. Ils sont en galère en ce moment, les Rams, donc je vais prendre les Seahawks.
Ah, oh bah là, si les Seahawks viennent pas celui-là, faudra se poser des questions quand même. Les Rams, moi je pense qu'ils en gagneront plus jamais d'ici la fin d'année.
Ouais, faudra refaire le cas par cas, mais de toute façon, oui, ça va être une fin d'année compliquée. Il te reste Ravens, Broncos ou Bears, Packers ?
Bears, Packers. Alors je dis tout de suite, j'aurais jamais cru prononcer cette phrase, mais enfin bon. Je pense qu'il aurait été plus haut si on avait eu la confirmation que c'est Jordan Love.
Parce, je suis d'accord.
Parce que mine de rien, bah, y aurait quand même eu un peu cette curiosité de dire mais voilà, qu'est-ce qu'il va donner ? Est-ce que c'est le quarterback de l'avenir ? Etc, etc. Là, à la place, on se dit bah, peut-être que ça va encore être Rodgers qui a fait une interview pour dire en gros ça va bien, c'est ça ?
Ouais, oui, près, oui, ça va.
Bon, donc du coup, on va retrouver ces mêmes Packers limités face à des Bears limités, puisque Justin Fields, même si c'est pas annoncé officiellement, ça commence de plus en plus à ressembler à une fin de saison.
Donc, écoute, c'est pas que je l'espère parce que je t'affronte en fantasy et que t'as Justin Fields, mais...
T'as pas peur de Jared Goff ?
Un peu, hein, il peut prendre chaud. Hein.
Ouais.
J'ai pris un 40 points de TJ Hawkinson en début de saison avec les Lions. Crois-moi que j'ai peur de tout le monde.
Ouais, sauf qu'après ma 11e blessure, moi j'ai plus de running back. Donc bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, on a une équipe. Moi, j'ai vraiment envie de voir Jordan Love, en fait.
Ouais.
J'ai
ouais,
plus carrément. Envie de voir Rodgers cette carrément. Saison, en tout cas.
Carrément. Bon, tu pronostiques qui ? J'arrive pas à savoir qui je pronostique parce que on sait pas vraiment qui va jouer, en fait, au moment où on se parle.
Ah, moi, je pronostique Packers, quoi qu'il.
Moi, je vais prendre Packers pour m'aligner sur tout le monde. Mais tu vois, genre, je sais pas si c'est Fields face à Love.
Ouais, je prends Packers quand même. Parce que Fizz, je pense qu'au maximum, il est à 50%. Quoi.
Ok. Bon. On termine donc par Ravens Broncos. Les Broncos qui ont toujours la troisième défense sur les points encaissés, hein, quand même. Donc, ça va. Bon, les Broncos vont être affreux, on l'a dit suffisamment de fois. Voilà, ils n'ont pas d'attaque, etc. C'est une bonne occasion pour Baltimore de se refaire. Je relaie juste une théorie qui a été transmise par un de nos lecteurs qui s'appelle Tesseract, c'est son pseudo évidemment dans les commentaires du site, que je trouve intéressante, qui disait théorie sur les Ravens et leurs receveurs. Les receveurs n'ont pas envie d'y aller parce qu'il faut bloquer, qu'ils ne peuvent pas faire de stats et donc pas décrocher de gros contrats. Et c'est pour ça que les Ravens jonglent avec des receveurs de seconde zone et ou rookies.
Bah écoute, AJ Brown est venu aux Eagles tout en sachant que Hurts, il en serait 170 yards. Y a des mecs qui viennent aux Niners tout en sachant qu'ils gagneront, ils vont beaucoup bloquer, etc. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas.
Ça collerait avec le départ de Marquise Brown, non
hein. Okay.
Parce que Marquise Brown, il prend beaucoup plus de ballons à Arizona.
Non, mais t'as des stats padders. T'en auras toujours des mecs qui veulent des stats. Mais je sais pas. J'ai du mal à ouais. croire que ça soit une finalité.
Bon. Les Ravens
quand même, oui.
Au repos, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos yeux, les Cardinals et les Panthers. Le programme de la semaine 13, le match du jeudi Patriots-Bills, dimanche à 19h Falcons-Steelers, Ravens-Broncos, Bears-Packers, Lions-Jaguars, Texans-Browns, Vikings-Jets, Giants-Commanders et Eagles-Titans, 22h Rams-Seahawks, 49ers-Dolphins, Bengals-Chiefs, Raiders-Chargers, dans la nuit de dimanche à lundi Cowboys-Colts et dans la nuit de lundi à mardi Buccaneers-Saints. Les meilleurs cotes Unibet sur la NFL. Victor, qu'est-ce qu'on pronostique, qu'est-ce qu'on parie cette semaine?
Bah,
pas mal d'équilibré.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
T'as des belles surprises. Oh bah si, les Chiefs, c'est 1,66.
Ok, moi j'ai les Commanders, c'est 1,65. Moi je crois, ouais. Je crois vraiment qu'ils vont dominer les Giants. Vraiment.
Et les Chargers, c'est 1,73.
J'ai vraiment du mal avec... Tu sais, j'ai misé Riders, hein, j'ai vraiment du mal, mais
oui,
tu peux
hein,
en soi, tu peux, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette équipe pour l'instant.
Sinon, il y a beaucoup de grosses cotes.
Il y a Steelers, c'est 1,80.
Bah, j'allais dire, sinon, pour faire un combiné, tu mets les Seahawks à 1,22. Pour pas faire que des cotes plus hautes. Les Seahawks contre les Rams...
Ouais, normalement, ça devrait le faire. Ouais.
1,22. Allez, Chiefs à 1,66 contre les Bengals, les Commanders à 1,65 contre les Giants et les Seahawks à 1,22 contre les Rams, à jouer évidemment en séparé. Et si vous voulez les jouer ensemble, ça fait un combiné à 5€ misé, 16,71€ de gain potentiel. Si tu veux faire du YOLO, les Saints qui battent souvent les Buccaneers de Tom Brady à 2,48.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
Les Dolphins sont à 2,50 sur les Niners, j'avais pas vu.
Ouais.
Oh bah je prends.
Je suis assez d'accord. J'étais en train de regarder que ouais, Raiders Chargers c'est quand même en dessous de 2, donc ça donne peut-être pas envie.
Sur un YOLO c'est prudent. Les Jets qui tapent les Vikings de 20.
Est-ce qu'on met pas les Texans dans le YOLO par principe?
Ah bah ouais, par principe. Pas bête. Ils sont où les Texans? Je les vois pas. 3,25.
C'est pas énorme, hein.
Ouais, ce serait beau. Mais moi, je dis, je placerais bien, tu vois, le YOLO avec les Texans, et comme ça, s'ils passent, on en fait dos à une asso, contre les violences faites aux femmes, ou quelque chose comme ça, j'en sais rien.
Ah ouais, c'est pas mal, ça.
Tu vois, on fait un truc comme ça.
Ah, ça serait pas mal.
Genre, je sais pas, on met tous 1€ sur les Texans, parce que évidemment il y a peu de chances que ça arrive, mais comme ça, si ça passe, eh ben, on met tous le gain sur...
C'est pour une association de...
Plein de petits.
Ouais. Ça me paraît pas mal, je vais faire ça, ouais. Par, pour un symbole, mais ouais, ça serait pas mal.
Ah, n'hésitez pas, ouais, vous nous dites sur, genre sur Twitter ou quoi, ou sur les réseaux, vous nous postez vos captures d'écran, genre vous, on met tous 1€ sur les Texans. Et parce que du coup, bon, c'est avec les petits, et on va pas changer le monde, hein, mais c'est une cote à 3,25, donc ça fait 1€ misé, 3,25€ de gain, si je dis, si mes maths sont bons. Ça fait 1€. Je suis nul. Oui, 1€ misé, 3,25 de gain potentiel.
Bah, je vais donc, te voilà, dire, moi, j'ai pas parié de la saison, mais là, tu me donnes envie.
Et comme ça, on, à la fin, ça fait une petite cagnotte. Je sais pas. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça marche après pour certains dons et tout, mais ça peut être une idée. Voilà, donc pour l'épisode numéro 549 du podcast Touch en Actu, on vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee aussi. Il y a plein de nouveautés, il y a le calendrier, je l'ai dit dans la précédente émission, ça marche super bien, il marche. Oh, j'arrive plus à articuler. Ils partent plutôt vite, les calendriers sur le Tipeee. Il y a toujours les marque-pages, les sous-verts, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur Twitter, @TDActu, Facebook, @TDActu, TikTok, @TDActu, Instagram, @TouchdownActu en entier. On se retrouve demain pour parler draft. Vous parlez de qui, Victor ?
On parle des deux joueurs qu'on a aimés dans la Rivalry Week. Donc, il y aura un running back et il y aura un joueur de ligne offensive.
Très bien. Le running back, c'est le nouveau Barry Sanders, j'espère.
Bah, écoute, on a des très beaux running backs cette année. Je ne veux pas spoil, mais on en a au moins 7 ou 8 qui peuvent avoir un impact dès la première année en NFL.
Je dis ça et je l'explique à nos auditeurs parce que je tanne en fait Victor et Jean-Michel pour qu'ils me mettent des titres de podcast bien accrocheurs, genre un tel le nouveau Tom Brady, mais... un tel le nouveau Barry Sanders.
Non, mais on a un coureur théoriquement générationnel, mais on l'a déjà passé. Après, c'est vrai que là où je suis d'accord, c'est toujours un peu difficile, c'est que nous, on a envie de faire la comparaison la plus, on va dire, juste possible, mais d'un autre
c'était
côté...
C'était qui le receveur que vous m'avez sorti l'autre fois ?
Drake London.
Ah oui, Drake London, c'est ça.
Quentin Johnston, qui était Drake
c'est
London
ça.
2.0.
Je leur ai dit, les gars, vous me comparez le gars à un type qui a à peine joué et qui n'est pas très connu. Ça ne peut pas être Jerry Rice.
Non, mais c'est vrai qu'il faut parfois qu'on trouve des comparaisons un peu plus, qui parlent à tout le monde. Ouais.
Non, mais c'est un juste milieu. C'est vrai que moi, je les tanne en me mettant toujours du côté, en vous disant... Mais nos auditeurs, ils connaissent pas tous les mecs de la NCM. Moi-même, je connais pas tous les mecs de la NCM. Vendez-moi du rêve. Donc, on est dans cette opposition. Mais évidemment, vous êtes les garants aussi qu'on fasse un truc qui soit pas putaclic pour être putaclic. Donc ouais, on essaye de trouver ça. Mais voilà, je vous livre un peu les débats qu'on a des fois sur les titres pour les podcasts draft. Et donc, vous écoutez ça demain. Et pour l'émission de samedi, la rétro, on parlera encore de draft puisqu'on vous remettra le replay du top 10 de la draft 2017 où il sera question notamment de Mitchell Trubisky en 2 et de Patrick Mahomes en 10. Je peux vous dire que sur Mahomes, alors la séquence n'est pas hyper longue, je ne vais pas vous vendre ça comme un long débat sur Mahomes, on parle de Mahomes 5 minutes parce qu'il est choisi en 10, si vous vous rappelez bien, donc il est juste à la fin de la séquence, mais les avis sont un peu partagés quand même à l'époque, donc c'est plutôt marrant d'écouter ça, et il y a d'autres joueurs, il y a Christian McCaffrey notamment dans ce top 10 aussi, donc il y a pas mal de choses intéressantes. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com, on vous remercie encore une fois de nous suivre, et on vous dit donc à très bientôt, et à dimanche dans le fauteuil également. Merci beaucoup à tous. Merci Victor. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.